Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers amis du Minervois et de l'Aude qui ont fait le voyage si lointain pour venir entendre parler de ce qu'ils connaissent. Je ne leur apprendrai rien en leur disant que Cohn se trouve dans une situation tout à fait privilégiée sur les premiers contreforts du Massif central et que sa renommée est due à l'abbaye qui a été fondée par les bénédictins en 780 et à son vignoble entretenu de longue date, mais là je ne vais pas m'étendre sur le vin puisque ce matin Pascal Julien en a dit plus que je ne pourrais en dire. Depuis peu, les responsables politiques et économiques s'efforcent de faire connaître une autre richesse qui est bien négligée dans notre région, c'est les marbres. Ces marbres qui décorent les bâtiments royaux de l'Île-de-France et de la plupart des monuments de la région méridionale. Au début du XVIIe siècle, dans Cohn, un gros bourg pour l'époque d'un millier d'habitants, on ignorait encore la valeur de ce matériau, qui est utilisé seulement comme pierre de construction. La richesse, le nombre des documents qui sont possédés par les archives de Toulouse, de Carcassonne, de Montpellier, les archives nationales, permettent de retracer l'histoire de l'exploitation dans les carrières de Cohn et de Félie dans le Minervois. Ainsi est-il intéressant d'avoir une vue particulière depuis les lieux même d'où sont partis les marbres du Languedoc, vers l'Italie, vers les provinces méridionales du royaume et vers les bâtiments royaux. Et justement à ces destinations correspondent trois grandes périodes qui marquent les deux siècles. D'abord l'installation des Italiens vers les années 1615, ensuite les marbriers français, 1660, enfin le monopole royal à partir de 1700. Nommé en 1598 par le roi lui-même, Jean d'Alibert devient abbé commendataire de l'abbaye de Cohn et seigneur du lieu, entouré à peine d'une dizaine de moines. Au cours d'un voyage à Rome, vers 1615, il y rencontre un sculpteur italien qui l'amène à Cohn. Avec six autres maîtres de son pays, Estienne Sormano, qui est né vers 1590 à Savone, prospecte les mines de marbre jaspé. Il souligne la durée et le coût excessif des recherches, le besoin important de main-d'œuvre locale. Il découvre les sites intéressants dans les terroirs de la Malacasse et des moulins. Ici, nous avons des traces d'exploitation, certainement du XVIIe. Louis XIII se préoccupe aussi de faire rechercher le marbre. Le surintendant et réformateur des mines de France, Antoine Ruse, transmet une commission au duc de Montmorency, qui est alors gouverneur du Languedoc, en 1622, pour faire découvrir, dit le document, les pierrines de marbre jaspé. À Cohn, Estienne Sormano fait extraire des blocs de la meilleure qualité qu'il destine à l'Italie. Les documents soulignent l'importance du chantier. Par exemple, en 1628, il fait transporter jusqu'au port de Narbonne 20 charrettes de marbre, comprenant des colonnes de 3 mètres de longueur. Nous sommes en 1628. Il s'associe avec Antoine Lignani, un autre maître tailleur de pierre, de marbre, natif de Lucques, en Toscane, pour une durée de 15 ans. Et chacun décide de garder le matériau qu'il a pour son profit, à condition qu'il soit déjà entreposé à Cohn, à Narbonne et à Gênes. Les deux maîtres taillent, exploitent, mais aussi négocient le marbre. La présence d'un marchand de Gênes comme témoin montre déjà l'organisation des Italiens. Le nouveau seigneur et abbé de Cohn confirme la confiance qui avait été accordée par son prédécesseur, et Sormano, à titre de reconnaissance, offre une statue de la Vierge à la chapelle Notre-Dame du Cross. Elle ne se trouve pas à la chapelle Notre-Dame du Cross actuellement, elle se trouve dans une église voisine à Puychéric. En octobre 1633, l'exploitation intensive des carrières par les Italiens nécessite un nouvel acte. Le contrat définit alors les conditions d'un bail en inféodation noble et perpétuelle, qui est accordé à Estienne Sormano, dans les carrières où affleurent les marbres de couleur incarnat et vert. Le monopole du commerce apparaît dans l'interdiction de sortir des blocs du royaume sans l'accord de Sormano. Lignani, avec son fils Vincent, fournit en marbre de Cohn et de Carrare le chapitre Saint-Étienne de Toulouse, qui est vraiment dans l'obscurité aujourd'hui. Il fournit des lambris, des balustres, etc. Lui-même, il assure la finition des pièces commandées par ses compatriotes, comme André Rossi, un jeune maître sculpteur de Gênes qui vient d'arriver. Vincent Lignani et André Rossi s'associent en 1659 pour le travail, mais uniquement dans le présent royaume. Et à cette époque, c'est la deuxième période pour l'histoire de l'extraction dans les carrières de Cohn et de Féline. À cette époque arrive le premier maître marbrier français qui se marie à Cohn et qui construit le portail en pierre de la chapelle Notre-Dame du Croc, une petite chapelle qui est en bas des carrières actuelles. Jean Beau va s'engager d'abord en 1662 avec un artiste toulousain, Gervais Drouet, qui a été marbrier statuaire à Rome comme disciple du Bernin. Lors des travaux exécutés à Saint-Pierre de Rome, certainement il a apprécié les marbres incarnats. Lors d'une venue à Cohn, en juillet 1662, Drouet choisit des marbres qu'il commande à Jean Beau pour participer à l'embellissement du jubé dans la cathédrale d'Auch. Les divers documents définissent le rôle dévolu à chacun des intervenants. Gervais Drouet se déclare comme architecte, il fournit les plans, il surveille le chantier. Raymond Niel, qui est un traceur du bourg, tire les blocs. Les trois marbriers, Lignani, Rossi et Beau, règlent les droits d'extraction à l'économe de l'abbaye. Les Italiens se chargent du levage des colonnes et du transport jusqu'à Auch, où ils les poliront, les lustreront et les installeront. Jean Beau, qui s'intitule à ce moment-là architecte tailleur de marbre, réalise les ouvrages de sculpture pour obtenir les pièces d'ornementation et les motifs. L'association de Lignani avec Beau marque la fin de la domination des Italiens sur l'extraction marbrière à Cohn et à Féline. Les neveux de Lignani assurent la réception des marbres sur le port de Gênes. Un marchand de Marseille et une compagnie de deux marchands français, David et Bernard, résident à Gênes et s'occupent des affaires financières. Déjà réputé par la qualité de son travail, Beau signe une convention exclusive avec l'économe qui représente les intérêts de l'abbaye pour le droit de tirage des marbres des carrières. François Mercier, un autre maître tailleur de pierre toulousain, demande à Jean Beau la fourniture de 4 colonnes pour l'église des Jésuites, d'autres colonnes pour le retable de la cathédrale Saint-Étienne. Non, le soleil n'est pas à Toulouse aujourd'hui. Déjà réputé par la qualité de son travail, donc, Beau signe une convention exclusive avec l'économe de l'abbaye pour le droit de tirage des marbres, alors que jusqu'à maintenant, ce droit de tirage avait été accordé aux Italiens. La région commence à apprécier les marbres de Cohn, la région méridionale. Selon une convention passée avec l'économe de l'abbaye en janvier 1664, Jean Beau retire donc tous les marbres, même pour ses chantiers particuliers. Les Italiens aussi extraient des blocs dans les carrières de la Malacasse et des moulins. Le premier site offre une qualité inégalée d'incarnat, variété recherchée pour son fond rouge que fouettent de grandes taches blanches et grises. Cette couleur convient agréablement quand elle complète le blanc de Carrare. Le deuxième site, le long de la rivière de l'Argent Double, procure le Turquin, d'un rouge pâle, tacheté de gris. Des intermédiaires parisiens comme Boeuf et Formont se chargent dès 1665 d'avancer l'argent correspondant à l'achat des marbres d'Italie, de Provence et aussi de Languedoc. Pour cette dernière province, l'appellation couvre en très grande partie les extractions faites dans les carrières de Cohn et de Féline en Minervois. D'autres sites dans la région présentent cette couleur rouge incarnat, ou rouge de France, selon les Italiens. Mais il semble qu'ils ont été peu exploités, je ne veux pas m'attirer les foudres, M. Fabre, peu exploités avant les débuts du XIXe siècle. Coumiac, Saint-Pons, dans l'actuel département de l'Hérault. Oui, mais là, je suis 17e, 18e, moi, je n'ai pas vu avant, je n'étais pas né d'ailleurs. En 1671, oui, mais j'y compte bien, M. Fabre, mais j'aurai la partie dure. En 1671, le roi ayant résolu d'employer des 10 marbres pour l'embellissement du Louvre et autres maisons royales, dit le texte, Le roi envoie une commission à Jambeau par l'entremise de Pierre Formont, qui est banquier et négociant à Paris. Ce dernier se trouve déjà en liaison avec les Italiens qui lui facilitent les achats à Carrare. Jambeau fournit les nombreuses colonnes et pilastres nécessaires aux bâtiments royaux et en particulier pour édifier le péristyle du Grand Trianon, à l'incarnat, tout au moins du côté des jardins. L'abondance des commandes royales et les exigences plus importantes sur le choix des couleurs incitent à la recherche de nouveaux sites. Sur le terroir noble de Villerambert, un traceur italien, Jean Pianède, crée une société avec le seigneur, François de Vernon, et Jambeau, marbré ordinaire du roi, comme il s'appelle à ce moment-là. Cette nouvelle carrière sert aussi les intérêts d'un marchand de Carrare et du marbrier français. On y découvre les couleurs originales, comme le cervelas, à fond rouge, taché de spirales noires et blanches, et surtout le rouge antique, plus foncé. Des sculpteurs viennent à Cône pour choisir les meilleures pièces, comme Jacques Massé de Lugano, qui travaille alors à Montpellier. Des compagnons, des maîtres traversent le royaume pour s'installer à Cône. Jean Laurent, l'Espérance, originaire de Loudun, Michel Faure, La Palme, de Lyon. Pour résister à l'abondance des commandes provenant du sud-ouest, les marbriers s'associent et mettent en chantier des cheminées, des colonnes pour l'évêché de Montauban, pour les Carmes de Toulouse. On trouve ces colonnes en réemploi au Jardin des Plantes de Toulouse actuellement. Michel Faure fournit au sculpteur Philibert Chailloux une dizaine de colonnes pour la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Puis, il érige un retable à deux corps en incarnat et turquin dans la chapelle Notre-Dame-du-Cros, juste au pied des carrières. C'est le premier retable avec des éléments en marbre que l'on trouve dans le Midi, dans ces années 1685. Jusque-là, tous les retables du Midi, pour la période baroque, bien sûr, étaient uniquement en bois. Et le grand sculpteur Jean-Jacques Meller, qui a beaucoup travaillé dans l'Aude et la Pyrénées-Orientale, utilise à ce moment-là du marbre pour allier, à la cathédrale de Perpignan, par exemple, pour allier les parties en bois, les colonnes torses en bois, et certains panneaux, certains plaquages avec du marbre. Dans les 10 dernières années de sa vie, Jambeau continue la livraison du matériau selon la qualité souhaitée. Le marchand banquier Formont, déjà intéressé aux carrières des Pyrénées, reçoit un passeport en juin 1670. Avec le marbrier Hubert Misson, il s'occupe de l'extraction et du transport à partir du Languedoc, comme dit le texte, chargé de tirer du marbre de toutes couleurs pour le Louvre et autres maisons royales. Colbert, surintendant des bâtiments du roi de 1664 à 1683, crée l'administration royale du marbre et favorise ainsi l'achat des marbres français. Les négociants doivent alors être contrôlés, les transporteurs, les marbriers aussi. Après avoir séjourné à Toulouse, Étienne Ducrot, qui se dit commissaire du roi pour la directe des marbres, se fixe à Cône, près du marbrier du roi Beau. Avant la mise en eau du canal du Midi, les déplacements se font par route jusqu'au port de Toulouse, d'un côté, et de Narbonne, de l'autre. Deux maréchaux ferrants, d'origine franc-comtoise, ne peuvent suffire au travail que leur commande Antoine Chausset, un des entrepreneurs généraux. Ils doivent fournir toutes les pièces de fer nécessaires à équiper les charrettes et les chariots. Ils se chargent aussi de ferrer les chevaux et les mules. Et les charretiers craignent d'entreprendre de tels voyages malgré la force des bœufs qui arrivent à tirer plus d'une demi-tonne par charrette. Ici, nous voyons le chemin des carrières, certainement le chemin des plus anciens, puisqu'il est en contrebas dans la vallée, il y en a un peu plus supérieur qui doit être du 18e. Et on imagine comment on partait avant la mise en eau du canal du Midi, comment on partait sur des chemins pareils, avec des chariots à 8, 10, 12 bœufs, des chariots, des charrettes à roues bandées. Et pour compliquer en plus, quand il va falloir fournir des colonnes à Bordeaux, dans les années 1670-75, eh bien, au lieu de descendre sur Carcassonne et prendre la vallée, passer par Castelnaudary, les charretiers trouvent le moyen de grimper sur la montagne et d'aller passer par Revel, ce qui a dû rallonger de quelques quelques semaines peut-être. Le canal du Midi améliore donc les déplacements, à partir de 1681 à peu près. Et dès 1684, les États de Languedoc se préoccupent du passage des voitures. Le bail des travaux pour l'entretien des chemins profite à Marc-François Petit, qui se déclare entrepreneur général du tirage des marbres pour les bâtiments du roi, sous la réserve qu'il en assurera l'entretien. Le nouveau chemin, en pente plus régulière, aboutit au port d'embarquement de Puchéric. Et à l'écluse de l'Aiguille, on voit bien un quai, un port d'embarquement qui a été construit justement pour faciliter le passage, le déplacement des blocs sur les péniches. À partir de 1684, les marchands Bœuf et Formont laissent la place à une compagnie de 4 associés qui arrivent dans le Midi, Chantemerle, Escorolles, Petit, Chaussé. En octobre 1686, le responsable des transports, Marc-François Petit, confie l'entreprise à Jacques Jacob et à Jean-François Le Sœur pour le Languedoc depuis Cône jusqu'à Rouen. Et des intermédiaires assurent le déplacement des blocs, sur le canal d'abord, sur la Garonne ensuite, et puis à partir de Bordeaux. Et à ce moment-là, à Cône se tient en permanence un autre personnage important, Claude Bouquet, qui s'intitule sous-entrepreneur en marbre pour Sa Majesté. Profitant de la facilité du transport, la vogue du marbre atteint la région et même le royaume entier. Les associations se multiplient entre les maçons locaux, les marbriers, les sculpteurs italiens. Et collaborant avec les entrepreneurs généraux chargés du tirage, Michel Martin, ingénieur des marbres du roi, se fixe à Cône de 1684 à 1690. Et de là, il commande directement les ouvriers pour les pièces brutes, pour les blocs, pour les tranches. À cette époque-là, les marbriers commencent à s'intéresser aux moulins, pour le sillage des pièces. Et ces moulins, ils les utiliseront le soir ou la nuit, quand le moulin ne servira pas à son activité essentielle. L'année 1700 marque la troisième période pour l'extraction de Cône. C'est la publication d'un arrêt par lequel le Conseil d'État assure au roi le monopole du commerce du marbre, tant à Paris qu'en province. À ce moment-là, sous la responsabilité du duc d'Antin, directeur des bâtiments du roi, l'administration décide de l'ouverture des carrières, des autorisations de transport, de la valeur des pièces. Marbrier d'origine, comme ses ancêtres, Claude Tarlet, répond à une commission royale pour visiter les marbrières des Pyrénées, du Languedoc et de Provence. Et son voyage dans le Midi va relancer l'exploitation des marbres en Languedoc. Accompagné par Pierre Lassus, contrôleur des marbres, et par Cordier, un compagnon marbrier, il arrive en septembre 1712 dans le Minervois et note dans son excellent rapport toutes ses carrières ouvertes et qu'on y travaille pour l'Italie et pour les gens du canton. Au-dessus de la carrière du moulin, Tarlet découvre un marbre inconnu et éloigné de l'incarnat commun qui s'entasse sur les quais du canal à Toulouse. Il recommande aux entrepreneurs, dit-il, le marbre vert, blanc et rouge fort vif qui a du rapport au vert d'Égypte. Le même rapport Tarlet propose une organisation améliorée pour le tirage des marbres, en interdisant aux particuliers de faire travailler dans les carrières de griottes et de verres. Pour limiter les coûts du tirage, il faudrait donner, dit-il, la préférence aux ouvriers payés à la journée. Il faudrait éviter les marbriers, désignés par le duc d'Antin, et surtout limiter l'intervention des entrepreneurs et des banquiers, qui revient fort cher. Comme au siècle précédent, les entrepreneurs réunis en compagnie, Chantemerle, les Chaussées notamment, suivent la livraison des marbres vers les magasins de Paris jusqu'à la liquidation de la société en 1703. Le service central des marbres fait appel à des particuliers et aux contrôleurs qui achètent les plus beaux blocs pour le roi. La situation des carrières de Cône présente la particularité de ne pas appartenir au roi. Les marbriers en extraient les pièces après avoir payé le droit de fortage à l'abbaye. Dans le protocole signé par le duc d'Antin, Tarlet a proposé 2 marbriers pour tirer les marbres pour le roi, Guillaume Gillard, originaire de Franche-Comté, et Jacques Fèvre du diocèse de Genève, qui travaillent à Cône depuis 1686. Et on s'aperçoit une fois de plus que les marbriers de Cosne ne sont pas du lieu. Ce sont tous des gens de l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas la qualification nécessaire, parce qu'il est plus rentable de s'occuper du textile, d'artisanat textile ou de l'agriculture dans cette région du Minervois, alors que les marbres ne font travailler que pendant 5 ou 6 mois. Et certainement un travail plus pénible. Alors Gillard et Fèvre, qui sont désignés comme marbriers pour tirer les marbres du roi, se chargent d'extraire les blocs, de les faire voiturer par le canal jusqu'au port des Roques à Toulouse. Un peu plus tard, dans les années 1730, c'est Jean Galinier qui devient entrepreneur des marbres du roi. Le traité annuel passé avec Claude Tarlet, contrôleur général, détermine l'importance des commandes, tant en griotte qu'en incarnat. En 1739, par exemple, l'acte notarié précise la livraison de 600 à 700 pieds cubes, ce qui fait environ 20 mètres cubes. Pourtant, 10 ans après, le même Jean Galinier se plaint des mauvaises conditions d'exploitation dues aux exigences des seigneurs. En effet, l'entrepreneur doit traiter avec le marquis d'Opoule, qui est seigneur de Félines, la paroisse voisine, dans le diocèse de Saint-Pons, et il doit traiter aussi avec les religieux de Cosne, qui souhaitent faire travailler les marbriers locaux sur le même site et qui commencent à être très exigeants au niveau des droits qu'ils montent régulièrement. Ils se heurtent aussi au pouvoir des consuls locaux, c'est-à-dire de ceux qui dirigent la communauté à l'époque, et ces consuls recommandent la liberté du travail, ce que n'a pas l'air d'accepter le marbrier Galinier. Le dossier parvient à Versailles, d'où le directeur général des bâtiments de Roye, le Normand, écrite à l'intendant de Languedoc pour soutenir le seul entrepreneur des fournitures pour le roi en Languedoc. Parmi les bénéficiaires des commandes royales figurent plusieurs marbriers qui sont nés à la fin du XVIIe siècle. Sur 4 générations, les marbriers, Galinier, Grimm, Moulinier, ces familles vont dominer la vie économique de Cosne. L'importance du nombre des garçons, d'ailleurs, entraînera l'installation à Montpellier et à Marseille. Le XVIIIe siècle confirme ainsi que l'exploitation des carrières repose sur des étrangers ou sur leurs descendants. D'autres garçons marbriers arrivent en équipe. Martin de Manne et Jean-Joseph Joanneau, du diocèse de Liège. Quelques rares sculpteurs italiens ont fait souche, et d'autres sont arrivés récemment. Ferdinand Buzzi, Jean-Baptiste Ferretti de Cosne, Jean-Félix de Carrare. Certains viennent même, sans s'installer à Cosne, uniquement pour choisir les blocs de marbre, comme Isidore Baratta, architecte et marchand de Montpellier, Joseph et Étienne Nelly, directement de Carrare. Avec du blanc statuaire ou veiné, ils réalisent de nombreux autels tombeaux et définissent les anges adorateurs et les chérubins. Les marbriers, puis l'administration royale, ont facilité l'importation de marbre de Carrare. Les échanges réguliers entre les deux pays ont entraîné l'installation de marchands et de sculpteurs sur l'axe Cosne-Carrare, à Narbonne, à Béziers, à Montpellier, à Marseille. Les études entreprises à Versailles dans le Midi ou à Gênes devraient permettre une meilleure connaissance des relations économiques et des déplacements des sculpteurs et des artistes dans ce royaume. Vous voyez que la sculpture se continue encore à Cosne, mais en nombre très limité.